marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission spéciale Indépendance. Nous revisitons chaque semaine un épisode de la décolonisation. Comment les Africaines et les Africains l'ont-ils vécu? Comment les grandes figures intellectuelles et politiques du continent se sont-elles battues? Et jusqu'où la France s'est-elle compromise pour maintenir son emprise coloniale? 60 ans après l'année magique, cette fameuse année 60 où 17 pays africains accèdent à la souveraineté nationale, je vous invite au bal des Indépendances, au son de nos archives sonores et musicales.
Indépendance, tcha-tcha, aux oubliés.
Le Cameroun est libre et indépendant.
Vive la Fédération du Mali, vive la communauté des peuples libres.
Je proclame solennellement l'indépendance du Niger.
Mes chers compatriotes voltaïques, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta.
L'indépendance de la Côte d'Ivoire.
L'indépendance de la République gabonaise.
Je vous ai compris.
C'est le bal des indépendances dans la marche du monde. Dernier épisode, Benjamin Stora, une mémoire algérienne. Exister en dehors de sa communauté, comment dépasser la tragédie de la guerre et de l'exil, comment conjuguer les deux rives de la Méditerranée et retrouver sa propre mémoire lorsqu'on a passé sa vie d'historien français à travailler sur la guerre d'Algérie. Autant de questions suscitées par une anthologie des œuvres de Benjamin Stora dans la collection Bouquins aux éditions Robert Laffont. Le grand historien nous reçoit chez lui et nous offre les clés retrouvées de sa mémoire algérienne. Merci Benjamin Stora de nous ouvrir les portes de votre maison.
Bonjour et merci d'être là avec moi.
Alors nous sommes ensemble sur RFI avec vous Benjamin Stora, au son de nos archives sonores et musicales, à l'occasion de la publication aux éditions Bouquins de cette anthologie de 6 de vos ouvrages. Je les rappelle, d'abord les clés retrouvées sur votre enfance juive à Constantine, la dernière génération d'octobre, ça c'est sur votre engagement politique et votre itinéraire de militant trotskiste, les guerres sans fin sur les conflits de mémoire entre la France et l'Algérie, les trois exils sur les Juifs d'Algérie, et puis le mystère de Gaulle, en l'occurrence la question de son choix pour l'Algérie, et enfin François Mitterrand et la guerre d'Algérie. Alors vous avez orchestré une partition largement personnelle, mais aussi autobiographique pour cette édition. Pourquoi ce choix ?
Oui, enfin, c'est un choix qui est celui de l'éditeur d'abord, qui a voulu qu'on commence peut-être une publication de mes ouvrages à partir d'un parcours personnel autobiographique, donc l'enfance bien sûr, l'engagement politique dans l'après 68, et puis aussi des recherches plus récentes, académiques, mais qui ont à voir avec cet engagement, c'est-à-dire le rapport à François Mitterrand et le rapport à De Gaulle, et ce faisant, dans la réédition du livre sur De Gaulle et celui sur Mitterrand, d'une sorte de comparaison à distance entre De Gaulle et Mitterrand, sur une question très épineuse qui, bien sûr, est celle de l'indépendance algérienne.
Et une autre question très épineuse, certainement pour l'historien que vous êtes, c'est justement de faire ce travail de mémoire personnelle. Vous qui avez tant travaillé sur les archives et les itinéraires personnels des autres. Et vous citez d'ailleurs Frantz Fanon, psychiatre antillais, militant anticolonialiste, il avait rejoint le FLN algérien et il écrivait « La densité de l'histoire ne détermine aucun de mes actes. Je suis mon propre fondement et c'est en dépassant la donnée historique instrumentale que j'introduis le cycle de ma liberté. » Est-ce que vous étiez en quête de liberté, Benjamin Stora ?
Oui, je pense parce que j'ai jamais voulu appartenir ou rester prisonnier d'une seule histoire. Une histoire familiale ou une histoire religieuse ou une histoire communautaire ou une histoire nationale. J'ai toujours essayé de m'évader de toutes ces histoires tout en les assumant toutes, tout en essayant de les garder toutes. Ça a été d'ailleurs l'objet d'un de mes premiers livres qui n'est pas réédité dans cette entre guillemets anthologie, qui est un livre que j'avais publié en 1990 qui s'appelait « La gangrène et l'oubli, la mémoire de la guerre d'Algérie » et qui était un essai sur comment on peut manifester de l'empathie avec des victimes d'une histoire, en l'occurrence d'une guerre, tout en conservant une distance critique. C'était un petit peu l'objet de cet ouvrage, « La gangrène et l'oubli », qui est réédité d'ailleurs sans cesse et qu'on n'a pas choisi de publier cette fois-ci.
En tout cas, ce long chemin de liberté personnelle, c'est aussi le chemin d'une vie. qui nous ramène avec vous à Constantine, en Algérie, où vous êtes né en 1950. Dans une famille, vous avez grandi avec volupté au milieu des femmes. Votre maman, Marthe, écrivez-vous jolie, solide, vive. Votre sœur, émancipatrice. Vos tantes, le hammam.
Très nombreuses femmes.
Toute une atmosphère.
Oui, oui, tout à fait. C'est un apprentissage de vie en Orient, en fait, fondamentalement, où les enfants vivent au milieu des femmes. Beaucoup avec les femmes, pour la nourriture, pour les devoirs à la maison, pour le hammam, pour les sorties, etc. Et dans le fond, les pères sont assez lointains, quoi. Ils ne sont pas si présents que ça. Donc j'ai été au hammam très très tard, moi, comme je le raconte dans ce livre, Les Clés Retrouvées, avec mes tantes très nombreuses. Parce que j'appartiens à une famille très très nombreuse. Hein. Du côté de ma mère, il y avait 6, 7 frères et sœurs, du côté de mon père aussi. Donc j'ai beaucoup de cousins germains et cousines germaines. C'est une vie très communautaire aussi, fondamentalement, où règnent dans l'espace domestique, dans l'espace privé, les femmes bien sûr, mais pas dans l'espace public. Dans l'espace public, ce sont surtout les hommes qui dominent, qui sont présents, mais ce sont les femmes qui sont maîtresses dans l'espace privé et qui échangent un maximum d'informations devant l'enfant que j'étais. Et qui, naturellement, écoutait tout, essayait de capter l'ensemble des bruits. Les années 50, c'était le moment de la guerre d'Algérie. Donc c'est devenu un des grands sujets de débat, de discussion et d'angoisse qui pouvait exister à l'intérieur des familles.
Donc vous entendez aussi, évidemment, la peur des femmes dans les vapeurs du hammam, des femmes qui à un moment donné vous font comprendre que c'est bon, vous êtes assez grand maintenant, il va falloir passer du côté des hommes. Là, c'est beaucoup moins drôle.
C'est moins drôle parce qu'effectivement, quand on est grand, c'était en l'occurrence, là j'avais je crois 9 ou 10 ans, je préférais être du côté des femmes évidemment, c'était beaucoup moins drôle de vivre du côté des hommes. Encore que, une petite anecdote qui ne figure pas dans le livre, il y avait une très grande tendresse chez les hommes dans la façon de laver les enfants. Alors que les femmes étaient beaucoup plus vigoureuses, qu'elles étaient beaucoup plus énergiques, en fait, avec les enfants que les hommes, qui avaient peut-être pas l'habitude, d'ailleurs, de se retrouver avec des enfants. C'est assez étrange, quoi, quand je me rappelle ce souvenir.
Et votre grand-père s'appelait Benjamin, donc vous avez le même prénom que votre grand-père. Vous avez eu l'occasion, d'ailleurs, de retourner sur sa tombe en
Algérie. Oui, c'est assez étrange, parce que quand je suis retourné en Algérie dans les années 80... dans ce cimetière, et je suis tombé effectivement sur la tombe de mon grand-père qui est mort quelques années seulement avant ma naissance. C'est une très grande tombe avec écrit en très gros Benjamin Stora. Alors évidemment, tomber sur sa propre tombe en terre algérienne, ça fait une impression très bizarre. Quand je dis sa propre tombe, c'est naturellement au sens figuré. C'est vrai que c'est une sensation étrange, hein, c'est-à-dire de dire qu'on est et qu'on appartient à la profondeur de cette histoire, dans la durée de cette histoire, et en même temps être bien sûr ailleurs de cette histoire, puisqu'on vient regarder de l'extérieur cette tombe, bien sûr, dans laquelle figure son propre nom.
Vous appartenez à la grande lignée des Stora. On n'a pas le temps de revenir justement sur cette longue histoire généalogique. Stora, c'est aussi le nom d'une plage que vous affectionnez. Mmh. Et puis, c'est aussi une communauté juive où vous avez grandi, mais tout en fréquentant la communauté arabe, parce que votre enfance à Constantine, c'est exactement ça.
C'était un quartier dans lequel j'ai grandi, qui était un quartier judéo-musulman, fondamentalement, qui est un quartier mêlé, où les bruits des écoles coraniques venaient se mêler au bruit des écoles talmudiques, qu'on appelait à l'époque l'Alliance. Donc il y avait cette sorte de circulation sonore, physique, dans l'espace public, encore une fois, mais pas dans l'espace privé, c'est-à-dire qu'il y avait aussi un chacun chez soi, hein, mais dans un même espace très réduit. Puis il y avait un quartier européen qui était plus lointain, un ailleurs, disons, vers lequel on regardait d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait une très forte présence culturelle française qui nous conduisait vers les chemins de l'assimilation, c'est-à-dire vers le fait de regarder vers la France et vers l'Europe. Donc il y avait une sorte de regard vers la France sur place, c'est-à-dire dans l'Algérie, dans le quartier, à Constantine, qui était une ville absolument superbe.
Et pour le gamin que vous étiez, la France, c'était quoi à l'époque? C'était l'école?
D'abord l'école, bien sûr, l'école républicaine, ça c'était la première chose. C'est là que j'ai appris le français, parce que comme je le dis, je le raconte, moi, la langue que j'ai appris quand j'étais enfant dans l'espace familial, bien sûr, c'était l'arabe, parce que beaucoup de juifs de Constantine parlaient l'arabe. Et puis la langue que j'ai commencé à déchiffrer sans la comprendre, c'était l'hébreu. Et la troisième langue qui est arrivée, c'était le français. Et alors, par un tour d'histoire assez classique dans le fond, qui est celui de l'assimilation, progressivement, les deux langues, arabe et hébreu, se sont affaiblies, et c'est le français qui a occupé, j'allais presque dire, envahi l'ensemble, disons, de l'espace, parce qu'on était dans un processus d'assimilation républicaine très puissante, et donc la France, c'était ça. Mais la France, c'était aussi le cinéma, parce que il y avait beaucoup de cinéma dans cette ville de Constantine, donc on passait beaucoup de films français, on allait très souvent au cinéma, donc Jean Gabin, c'est là que j'ai vu naturellement des films très connus, enfin tout le monde connaît les 400 coups de France. Ben, j'ai beaucoup de nostalgie par exemple quand je revois tous ces films à la télévision, parce que à chaque fois que je les revois, je me dis tiens, mais j'ai vu ce film à Constantine, le pont de la rivière Kouaï, les 10 commandements bien sûr, parce que là cette histoire biblique avec Charlton Heston, enfin tout le monde était allé voir ce film, et on allait régulièrement voir le cinéma français et le cinéma américain, qui était un facteur d'acculturation en fait fondamentalement. Ça passait par là. Et puis la France était aussi la musique française classique des années 50 avec le rock'n'roll qui commençait à arriver. Avec Paul Anka, avec les Platters, Sonny Liu, etc. Johnny Hallyday, 1959-1960, Elvis Presley, bien entendu.
Vous avez les yeux qui brillent, Benjamin Stora. Et vous ne ratiez aucune sortie de film et vous adoriez les chansons d'amour à succès.
Pas la peine de prendre cet air triste en me quittant.
C'est Dalida.
Dalida.
Puisque celle
mais il y en a d'autres.
Qui t'aime. T'attends.
Je sais bien que tu l'adores. Et qu'elle a des jolis yeux.
Là, c'est Dalida. Non, c'était Gloria Lasso. Pardon, c'était Gloria Lasso, la première.
Ah, d'accord.
Gloria Lasso, Dalida.
Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort.
Dario Moreno.
Je crois bien qu'il durera.
C'est une grande star.
Pour toujours.
You ain't la gloire.
Oh, c'est Elvis Presley, ça. Mais il vient de mourir.
La bande-son de votre enfance, Benjamin Stora, vous avez reconnu?
Oui, Gloria Lasso, Dalida, Dario Moreno, enfin je cite de mémoire, hein. C'était la musique qu'on entendait à Constantine, dans toutes les communautés d'ailleurs. C'était pas propre à une communauté particulière, ça traversait toutes les communautés. Bah, c'était les sons qui nous arrivaient d'Europe, de la France et des États-Unis. Parce que on sous-estime le facteur d'acculturation américaine qui était quand même très très important dans la société, y compris la société coloniale des années 50, qui a joué un très grand rôle. Elvis Presley, bien sûr.
La bande-son de Benjamin Stora dans La Marche du Monde, 10 ans à Constantine en 1960, c'est l'insouciance de l'enfance, marquée aussi par l'extrême violence de la guerre. À l'époque, on disait les événements. Une guerre qui démarre pour votre famille le 20 août 1955. Pourquoi ?
Ben parce que j'avais 5 ans et que dans ma petite chambre d'enfant, les militaires français sont rentrés, ont installé une mitrailleuse et ont commencé à tirer sur les gorges du Rumel où des Algériens tentaient de s'enfuir. Et je me souviens surtout, non pas tellement du bruit qui était bien sûr terrible, mais de l'odeur de la poudre qui avait littéralement envahi la chambre et ça m'avait beaucoup impressionné. Et de ce bruit complètement assourdissant, donc une entrée fracassante de la guerre en 1955. Puis ensuite, vous savez, dans cette histoire de guerre un peu particulière, de guerre d'indépendance algérienne, il y avait des moments de vie ordinaire, de vie quotidienne qui se poursuivaient, le marché, l'école, les amis, etc. Et puis tout d'un coup, une déflagration, une bombe. C'était comme ça, cette espèce de va-et-vient où il y avait une constante, fondamentalement. La constante, c'est qu'on savait qu'on vivait une situation qui n'était pas normale. Et pour ce qui me concerne, c'était la peur pour mes parents. C'est-à-dire de voir mon père un jour être assassiné, ou ma mère, ou ma sœur. Quand on est un enfant de 5 ans, de 8 ans, de 9 ans, c'est ça qui est préoccupant fondamentalement et qui génère de cette espèce d'angoisse. Mais on a vécu dans l'espace public, au quotidien, encore une fois, avec des fulgurances, des éclairs, des attentats, des bruits, pratiquement jusqu'en 1961. Et c'est qu'à partir de décembre 61, janvier 62, les écoles ont été fermées, et donc on est resté à la maison. Et on est resté, entre guillemets, confiné, pratiquement de janvier 62 à juin 62. Tout le monde était confiné, personne ne sortait. Les gens ne sortaient que pour aller faire des courses rapidement, acheter du pain. Et ça a duré 6 mois. Et ça m'est revenu là.
Alors ce qui est très très frappant, c'est que certains souvenirs de cette violence, notamment cette scène originelle, j'allais dire, hein, où ces soldats français rentrent pour mitrailler depuis votre chambre. Et puis, l'assassinat du musicien le plus connu d'Algérie, Raymond Léris, un des grands maîtres de la musique orientale. Vous étiez gamin et pourtant, ça vous a parlé, vous vous en souvenez, en juin 61.
Ah oui, j'étais au marché avec ma mère. Enfin, je me souviens que d'un seul coup de feu de la détonation, et des gens qui fuyaient, en fait. Et ma mère qui me tirait, j'avais 10 ans, et ma mère qui me tirait le bras très violemment pour retourner très vite à la maison avec les gens qui criaient, qui étaient complètement horrifiés. Et cet attentat a été très très important parce que Raymond, effectivement, était un chanteur de musique andalouse, de musique judéo-arabe, très célèbre, très connu, qui faisait notamment les mariages, les circoncisions, etc. Et son assassinat a marqué la fin d'une époque, la fin d'une période qui va être celle de la séparation intercommunautaire et celle du départ. Et je me souviens de l'enterrement de Raymond, c'était au mois de juin 61, et de la remarque de mon père lorsque nous montions vers le cimetière, un très grand cimetière de Constantine, et il faisait pas du tout beau ce jour-là, on était au mois de juin, et mon père m'a dit, tu vois mon fils, même Dieu pleure. Et ça m'avait frappé, quoi. C'est-à-dire que c'était cette phrase qui m'avait frappé et qui signifiait que quelque part, ça n'allait plus. S'il y avait quelque chose qui s'était cassé et qui s'était brisé, il y avait une autre histoire qui devait maintenant se poursuivre.
Dans votre livre, Benjamin Stora, Les clés retrouvées, votre livre sur votre enfance juive à Constantine, vous écrivez « Il y a un avant et un après, le 16 juin 1962, ce jour où, avec ma famille, nous quittons l'Algérie pour aller vers un autre univers, dans l'oubli de la société d'Algérie dans laquelle j'ai vécu et qui me reviendra bien plus tard. » Le départ d'abord, la scène du départ, vos parents, votre père, votre mère, quels souvenirs vous en gardez ?
La scène du départ, c'est le fait, en plein mois de juin, à la mi-juin, de s'habiller très chaudement, alors qu'il faisait très chaud. C'est-à-dire que je savais qu'on partait pas en vacances. On partait vers un ailleurs que je connaissais pas, et il fallait s'habiller parce qu'on avait le droit de partir qu'avec 2 valises chacun. Donc si on s'amusait à prendre des manteaux, etc., c'était pas possible. Donc ma sœur et moi, on s'était habillés très chaudement, dans le sens où on avait tous porté plusieurs vêtements sur soi. Avec l'espoir qu'un jour, les meubles, etc., nous rejoignent. Et ces meubles, on les avait entassés dans ce qu'on appelait à l'époque un cadre. Le cadre, c'était une sorte de cube en bois dans lequel les gens avaient entassé tout ce qu'ils pouvaient mettre. Et on est parti sans le cadre. Et ensuite, mes parents ont attendu le cadre en France pendant des mois et des mois. C'est-à-dire, ça a été l'attente du cadre. Et ça a été un moment très difficile. Donc le jour du départ, c'est qu'on est parti le matin, très chaudement habillé, on a attendu avant d'être embarqué sur un avion militaire à Telerma, sur la base militaire de Telerma près de Constantine. On a été embarqué que le soir, vers 18-19h, donc on est resté sous la chaleur, un soleil de plomb, ça je m'en souviens très bien, et on est arrivé à Paris la nuit. Et dans les récits qu'il y avait de mon père pour essayer de d'embellir, de calmer les angoisses, la situation. Il nous disait, ne vous en faites pas, nous allons aller vers la ville lumière, Paris. Mmh. Et quelle ne fut pas ma déception d'arriver vers, je sais pas, 9h du soir, dans une ville éteinte, la ville de Paris. Et un oncle était venu nous chercher, il a emprunté en voiture directement le périphérique. Alors moi, je guettais les lumières de Paris, de la ville, que je ne connaissais pas, évidemment. La Tour Eiffel. Et j'ai absolument rien vu. J'ai vu, disons, une ville noire, une ville grise, une ville sombre, une ville un peu effrayante. Et je ne comprenais pas ce qu'était cette ville lumière, en fait, dont on m'avait tant vanté les mérites. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement une situation où il y avait la cassure, il y avait eu cette sorte de guerre intérieure, beaucoup de morts, de sang, de peur, d'angoisse, etc. Mais toujours peut-être cette idée, cet espoir d'un pas de retour, mais de fait de pouvoir vivre, parce que les Juifs d'Algérie n'étaient pas des pieds noirs. Ils étaient enracinés sur cette terre algérienne depuis des siècles.
Alors justement, comment votre famille pouvait-elle se situer par rapport aux Français, justement? On se souvient de cette image de ces soldats français. Les Français, pour vous, c'était les ennemis? Ou est-ce qu'au contraire, il y avait ce mouvement de cette communauté juive vers, vous l'aviez dit, les quartiers européens et vers la France?
Vous savez, lorsque la guerre d'Algérie se termine en 62, les Juifs d'Algérie sont français depuis 5 générations. C'est-à-dire depuis le décret Crémieux de 1870. Donc la séparation, elle s'est faite. L'assimilation culturelle existe. Ils se vivent comme des Français. La preuve, c'est que lorsque le décret est abrogé par Vichy en 40, ils veulent redevenir Français. C'est-à-dire que l'immense majorité des Juifs d'Algérie se sentent Français en terre d'Orient, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils peuvent concilier quelque part leur appartenance à une histoire d'Orient avec leur attachement à une France républicaine, de gauche d'ailleurs. C'est leur sentiment, c'est leur volonté, etc. Donc pour eux, bien entendu, il n'y a pas, mis à part quelques personnages, quelques grandes personnalités du monde juif qui ont rejoint le FLN, qui ont combattu avec le FLN, parce qu'ils avaient cette conscience de la durée historique ancienne d'appartenance à une histoire plus que deux fois millénaire. Et certains, comme Daniel Timsit ou d'autres, ont rejoint les rangs du FLN. Mais l'immense majorité était dans une sorte de neutralité politique en regardant vers la France. Donc c'était pour eux un déchirement, parce qu'ils quittaient ce qui a été leur histoire, mais ils allaient vers la France, parce que c'était quelque part la suite d'un parcours d'assimilation politique et culturelle.
Alors ce qui est très intéressant, Benjamin Stora, c'est que vous allez grandir en banlieue ouvrière à Sartrouville, vous avez vécu longtemps ensuite, vous devenez un ado, et finalement c'est dans cette situation d'exil et de déracinement qu'on va vous renvoyer autre chose, parce que vous êtes français, mais on vous renvoie une autre image de vous.
Bah oui, parce qu'en fait les Français de métropole connaissaient très mal les gens qui arrivaient d'Algérie. Ils pensaient que c'était des gens tous très riches, etc. En fait, c'est ce qui était naturellement faux. C'était pas ça comme ça. C'était une population dont le niveau de vie était inférieur à celui de la métropole pour la grande majorité de ceux qu'on va appeler plus tard, entre guillemets, les pieds noirs. Et les Juifs d'Algérie se sont dans un premier temps intégrés dans cette communauté pieds noirs avec un niveau de vie extrêmement inférieur à ceux de la métropole. Donc ils sont été dans les banlieues, Sarcelles, Marseille, dans une période qui était celle des Trente Glorieuses. Donc le plein emploi, donc il y avait la possibilité de s'intégrer, qui était quand même très forte, mais avec l'accent, mais avec une histoire, mais avec une nostalgie, mais avec un déchirement, quand même, qui était quand même très très fort. Et le fait d'être renvoyé aussi à cette origine-là, un peu mystérieuse. Alors évidemment, eux ne se vivaient pas comme des immigrés, mais parce qu'ils étaient français juridiquement, ils se vivaient comme des Français. Mais quand j'ai travaillé ensuite, bien plus tard, sur cette histoire, dans le fond, je me suis dit, ces personnages qui arrivent et qui débarquent à Marseille, à Paris, à Sarcelles, etc., certes, c'est vrai, ils parlent français, mais ce sont des immigrés. C'est-à-dire qu'ils sont perdus fondamentalement. Ils sont en situation de déplacement, ils sont en situation d'errance, d'exil. Il va leur falloir des années pour maîtriser les codes de fonctionnement de la société française, la façon de parler, la façon de conduire des études, aller dans les meilleurs lycées ou pas. Donc on a à la fois, par conséquent, une situation où on les renvoie à leurs origines, mais une situation aussi où il faut dire qu'à cette époque, avant 68 notamment, pour la plupart de ceux qui étaient ce qu'on appelait les Européens d'Algérie, il y avait une volonté d'oublier l'Algérie. C'est-à-dire de ne pas assumer leur part d'algérianité. de s'en aller en oubliant.
Et du coup, pour vous, ça passe par... Vous êtes ado, hein. Faut s'assimiler, faut corriger l'accent.
Oui.
Ouais. Et puis, pendant ce temps, ben, pour les parents, tout change. Votre mère, c'est l'usine.
Elle va devenir ouvrière d'usine, elle n'avait jamais travaillé. Donc elle commence à travailler à 46 ans comme ouvrière d'usine, mon père dans une compagnie d'assurance. Et je vais devenir donc fils d'ouvrier. Que je découvrirai ma condition de fils d'ouvrier dans l'après 68.
Parce alors que vous étiez fils de bijoutier.
Alors qu'on était, j'étais fils de bijoutier voilà. À Constantine. Donc il y a un déclassement social qui est incontestable. Il y a une
très
chute,
dur pour votre
très
père.
Très dur pour mon père, très dur pour ma mère. Il y a une chute sociale qui est très très violente. J'ai été travailler ensuite en usine avec ma mère pour les aider financièrement et payer mes études à l'université de Nanterre dans l'après 68. C'était très 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 dur, très violent. Et petite parenthèse pour vous dire que bien plus tard, lorsque j'ai écrit ensuite La Dernière Génération d'Octobre, c'est-à-dire sur mes engagements politiques, bah, je me suis aperçu que parmi tous ces militants révolutionnaires qui avaient mon âge à Nanterre dans les années 70, j'étais le seul fils d'ouvrier. La plupart étaient tous des enfants qui avaient de la petite moyenne bourgeoisie voilà. Ou grande bourgeoisie. Ils avaient des appartements à Paris, des studios, des trucs, etc. Et moi, j'étais fils d'ouvrier, en fait.
Et votre mère, elle a un super atout. Elle parle arabe.
Oui, bien sûr.
Et elle va s'engager
En 68, elle va devenir déléguée syndicale CGT parce qu'elle parlait l'arabe. Il y avait pratiquement que des ouvriers immigrés. Et donc, elle va servir, disons, j'allais presque dire d'interprète. Mais elle m'avait toujours dit cette chose très drôle, c'est que, vous voyez, l'Algérie, comme c'est compliqué, c'est qu'elle me disait, quand les ouvriers ne voulaient pas que je comprenne, parce qu'ils savaient qu'elle comprenait l'arabe, ils parlaient en berbère. Ils parlaient en kabyle, parce que la plupart étaient kabyles. Et là, elle m'a dit, là, je ne comprenais plus rien. Là, quand ils se mettaient à parler en berbère, vous voyez la complexité d'une situation incroyable, de cette femme en particulier, qui subit cette condition d'ouvrière très dure, parlant l'arabe, au contact de militants berbères, sous les ordres de contre-chefs français, et au contact du mouvement ouvrier de la CGT. Enfin, vous voyez, cette espèce de maelstrom, de mélange, etc., dans lequel je vais grandir et devenir un militant politique.
Vous devenez un militant politique, vous avez 17 ans en mai 1968, Benjamin Stora, et vous écrivez « 1968 apparaît comme la date rupture, me permettant non seulement d'entrer en politique, mais aussi en France ».
Vous savez, j'ai découvert Paris dans les manifestations de 68.
Et moi. Voilà.
C'est-à-dire d'Enfer Rochereau, le boulevard Saint-Germain, le boulevard Raspail, la place de la République, bien sûr, la Nation, le quartier latin, la Sorbonne. Moi, j'habitais Sartrouville. Je suis ensuite allé au lycée de Saint-Germain-en-Laye parce qu'il n'y avait pas de lycée à Sartrouville. On était, entre guillemets, bloqués sur une banlieue, la banlieue ouest, et on allait très peu à Paris. On ne connaissait pas Paris. Donc 68, c'est la découverte, effectivement, d'un autre monde, d'une autre histoire, mais c'est aussi la découverte d'une sorte de fraternité, fraternité ouvrière, fraternité de la jeunesse. Et là est le moment où je peux dire enfin d'où je viens, qui je suis.
À travers un slogan.
Bah, nous sommes tous des juifs allemands, à bas les frontières on s'en fout. C'était un des grands mots d'ordre de 68, on a oublié maintenant. Et c'est-à-dire de dire dans le fond qu'on est solidaire des travailleurs immigrés, qu'on veut le dépassement des frontières, qu'on est pour l'internationalisme et qu'on est effectivement pour une république solidaire. Et là, ça change tout, bien sûr. Et là, on peut dire qui on est et d'où on vient.
Et là, vous pouvez dire je suis...
Bah, je suis, c'est-à-dire qu'en fait...
Je suis juif d'Algérie.
Oui et non, parce que 60, c'est ça qui est compliqué, encore une fois ça complique. Oui et non, parce que 68 c'est le passage aussi directement à l'internationalisme universel. C'est-à-dire que quand on devient un militant révolutionnaire dans l'après 68, les années 70, très engagé comme ça a été mon cas, on dépasse le national. On transcende le national.
Mais quand même, au niveau de votre identité, pouvoir crier avec les autres, nous sommes tous des juifs allemands, ça vous a fait du bien.
Oui, bien sûr, conjoncturellement, momentanément. Mais je ne suis pas, entre guillemets, revenu à l'Algérie par le biais du national, mais par le biais de la révolution.
Alors justement, vous adhérez à l'Organisation communiste internationale, dirigée par Pierre Boussel, dit Pierre Lambert, c'est le mouvement des Lambertistes. Et 20 ans plus tard... Pierre Lambert se présentera au présidentiel en 1988.
Pierre Boussel est retraité depuis 8 ans. C'est un ancien agent de la sécurité sociale. Militant syndical, il est exclu de la CGT en 52 pour ses sympathies envers Tito, le leader yougoslave. Il veut encore construire un parti ouvrier indépendant, le MPPT. Trotskiste depuis toujours, il défend les intérêts des travailleurs français et étrangers. Il critique notamment les conditions d'internement en France des travailleurs immigrés arrêtés en situation irrégulière.
Les immigrés passent dans des camps de rétention. Nous avons photographié dans la formation ouvrière le camp d'Arak. Qu'est-ce que c'est le camp d'Arak? Ça présage et ça présume des camps de concentration. La première décision, le premier but qu'il faut mener, si on veut vraiment aider les immigrés, abrogation de toutes les lois et décrets qui ont été prises depuis 1981, qui sont poursuivis, aggravés par Pasqua, contre les immigrés. Suppression des camps d'hébergement, comme ils les appellent, les camps de rétention. Les travailleurs immigrés, ils ont les mêmes droits que les travailleurs français.
Les travailleurs immigrés ont les mêmes droits que les autres. C'est la voix, et quelle voix, de Pierre Boussel, dit Pierre Lambert, dans La Marche du Monde, pour évoquer vos anciennes convictions trotskistes, Benjamin Stora, votre engagement politique. C'est sans doute une clé de compréhension aussi, pour éclairer votre choix de travailler sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Mais d'abord, qu'est-ce que vous ressentez quand vous retrouvez cette voix de Pierre Boussel ?
Mais c'est toujours un peu émouvant parce que c'est un dirigeant politique pour moi important quand même, parce que j'étais très jeune, je suis resté plus d'une dizaine d'années dans cette organisation, j'en ai été un des responsables étudiants, puisque j'ai été un des fondateurs principaux d'ailleurs de l'UNEFID à Nanterre en 1980, donc je renie pas du tout tout ce parcours-là. Par contre, avec beaucoup d'insuffisances, beaucoup de problèmes, donc c'est à la fois émouvant et en même temps c'est lointain. C'est-à-dire qu'il y a une façon de réfléchir, de voir, d'organiser, de comprendre, d'analyser la société qui fait partie de moi, mais qui n'est plus moi. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une dimension beaucoup plus large sur la question de la place de l'immigration, du point de vue de la mondialisation, du point de vue de l'international. Encore une fois, moi, je suis rentré en politique dans cette gauche très radicale, pas par le national, mais par l'internationalisme. C'est-à-dire que c'est ça qui faisait la différence fondamentale dans ma génération.
Et ce qui est très intéressant aussi, Benjamin Stora, c'est que si vous ne faites pas de la politique forcément comme les autres, vous ne faites pas non plus de l'histoire forcément comme les autres, parce qu'à l'époque, la guerre d'Algérie, très peu de gens travaillent dessus, et c'est, je crois, le grand historien du XXe siècle, René Raymond, qui vous interpelle.
Oui, tout à fait, parce que j'étais étudiant à Nanterre dans les années, au début des années 70, très, très remuant, et René Raymond était président de la fac. Et donc, à chaque fois, on partait occuper son bureau, etc. Enfin, bref, c'était des histoires pas possibles. Et un jour, René Raymond, qui était mon prof d'ailleurs, il m'a dit, mais Stora, vous qui parlez de révolution toute la journée, pourquoi vous ne travaillez pas sur la révolution algérienne? J'ai dit, mais c'est vrai, ça, c'est incroyable cette histoire. Je parlais de la révolution au Vietnam, en Amérique latine, enfin de toutes les révolutions possibles. Enfin, on était extrêmement pointus sur toutes les révolutions dans le monde entier à l'époque. Hein. On connaissait les noms des premiers ministres du Pérou, de la Bolivie, du Vietnam. Enfin bref, c'était aussi le moyen de faire ses classes universitaires.
Et puis il y avait eu Cuba, la révolution cubaine.
Cuba, oh là là, j'en oublie, hein, oh là là, j'en oublie, bien sûr. Donc on était extrêmement affûtés. Et René Raymond m'a piqué, disons, sur cette question-là. Et là, je me suis dit, dans le fond, c'est vrai, l'Algérie. Et là, je me suis retourné vers l'organisation à laquelle j'appartenais à l'époque et qui avait des archives extraordinaires, qui étaient les archives des militants nationalistes algériens.
Et ah voilà, donc c'est comme algériens. Ça.
Et c'est comme ça.
D'accord, que vous êtes venu à la rédaction de ce dictionnaire incroyable.
Messali Hadj, qui est un immense personnage algérien, qui a fondé les premières organisations révolutionnaires, nationalistes, algériennes, et qui avait été proche des trotskistes, par antistalinisme. Et beaucoup de militants algériens, y compris pendant la guerre d'indépendance algérienne, avaient été proches des trotskistes, qui avaient été leurs compagnons de route, même des porteurs de valises, etc., etc. Et je suis tombé sur ce trésor, disons, des archives de ces Algériens, en fait, et puis des vieux militants trotskistes qui m'ont présenté à la fille de Messali Hadj, et qui elle-même m'a donné les mémoires de son père. Et tout ça, ça s'est fait dans les années 74-75, quand j'étais militant. Et c'est par la politique que je suis retourné, entre guillemets, en Algérie. Et c'est pas par l'identité. C'est pas par des recherches d'identité sur moi-même, sur ma famille, les origines, etc. Non, ça c'est beaucoup plus tard, c'est quand je suis devenu vieux. Mais quand j'étais très jeune et très engagé et plein de fougue et plein de force intellectuelle, ce qui est peut-être moins le cas aujourd'hui, eh bien, ce qui m'intéressait, c'était la révolution algérienne. C'est-à-dire pourquoi un personnage comme Messali, qui avait joué un si grand rôle, avait été écarté. Il n'avait pas, venir la nouvelle génération qui va, faire cette révolution avec le FLN, bien sûr, aussi Naït Ahmed, Ben Bella, enfin, je ne vais pas tous les citer, qui eux aussi sont devenus des amis après, c'est-à-dire des gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui m'ont livré ensuite leurs archives, tout ça. Vous voyez, c'est...
Boutef aussi, Bouteflika.
Jusqu'à Bouteflika, bien sûr, qui a joué un rôle important, qui a été un acteur politique. Bon, on connaît sa fin, bien sûr, mais n'écrivons pas l'histoire par la fin toujours. Il faut aussi raconter l'histoire telle qu'elle se déroule. Et tous ces hommes, tous ces acteurs, aussi des femmes, ont été pour moi, dans les années 70-80, des compagnons de route très précieux. Et cela m'a permis de faire un dictionnaire biographique de militants algériens qui est sorti en 1985, où j'ai fabriqué tout seul 600 biographies d'acteurs du nationalisme algérien. Ça m'intéressait beaucoup. Cette histoire intérieure algérienne, elle m'intéressait beaucoup. J'avais envie de traverser le miroir, de comprendre ce qui se passait, de comprendre l'articulation entre le fait national et le fait religieux, la question de l'islam. Tout ça, c'est les années 80. Hein. Et c'est comme ça que j'ai soutenu, disons, une autre thèse sur une sociologie du nationalisme algérien. Donc, vous voyez, c'est par la politique, c'est par l'engagement que je suis, entre guillemets, revenu vers cette histoire algérienne et non pas en essayant de m'enfermer dans une seule histoire identitaire.
Et ce qui est très intéressant, Benjamin Stora, c'est qu'au fil de vos livres, vous tricotez ces itinéraires personnels avec la grande histoire. Et la grande histoire, c'est celle, bien sûr, des grandes figures nationalistes algériennes, mais c'est aussi de l'autre côté de la Méditerranée, notamment la figure de Gaulle et puis ensuite des autres présidents. Évidemment, c'est fascinant de revenir sur les mécanismes de la décolonisation. Depuis la défaite des militaires français en Indochine jusqu'au putsch d'Alger, c'est toute une vision de l'Empire qui s'effondre. Et le général de Gaulle l'a bien compris.
Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un quarteron de généraux en retraite. Il a une réalité. Un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatique au nom de la France. J'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. À partir d'aujourd'hui, je prendrai au besoin directement les mesures qui me paraîtront exigées par les circonstances. Françaises, Français, aidez-moi.
Je vous laisse réagir, Benjamin Stora.
Ah ben c'est un discours extraordinaire. Et le personnage du général de Gaulle, que dans le fond, j'ai découvert très tardivement, bien sûr, hein, parce que mon livre sur de Gaulle a été publié en 2008, c'est très tardif, mais c'est un personnage très intéressant parce qu'il s'intéresse au nationalisme français. Moi, ce qui m'avait intéressé dans cette histoire de Gaulle et de l'Algérie, c'est que dans le fond, la position que va adopter de Gaulle, c'est de décoloniser pour sauver la France. Mais ce n'est pas pour s'intéresser simplement au tiers-monde, aux indigènes, entre guillemets, ou aux colonisés. Et c'est cette dimension-là que, dans le fond, on n'a pas bien perçue, qu'on n'a pas bien compris.
Donc il avait compris que l'Empire, c'était fini.
Il avait compris que si la France voulait rester la France, il fallait qu'elle se redéfinisse différemment. D'abord par la construction de l'Europe, évidemment, ça c'est très important chez lui, mais aussi par toute une série d'associations avec des États nouveaux. Bon, évidemment, il y avait l'exemple du Commonwealth hein, qui existait à l'époque, dans les années 50, avec la décolonisation de l'Empire britannique. Mais pour lui, le monde avait profondément changé. Et ce que je voulais expliquer dans ce livre sur de Gaulle, c'est qu'avant même son arrivée au pouvoir en 58, il avait déjà changé. Il était déjà sur une position de modification des rapports entre l'Algérie et la France. Et il y a eu cette sorte d'incompréhension que tout le monde connaît, bien sûr, entre de Gaulle et une partie importante des Pieds Noirs, qui l'ont, comme on le sait, accusé de trahison, etc. Mais de Gaulle savait qu'il fallait s'orienter de manière très différente. Il l'avait dit à beaucoup, beaucoup de personnes, lorsqu'on voit et qu'on travaille sur cette question, il l'avait dit, bien sûr, à Raymond Aron, à Germaine Tillon. Et d'ailleurs, paradoxalement, celui qui avait compris et approuvé cette démarche de Gaulle, c'est-à-dire de redéfinir des liens entre la France et l'Algérie, c'était Albert Camus. Parce qu'Albert Camus, avant sa mort, ça on le sait peu, en novembre 1959, vous savez, Camus est mort en janvier 60, avait approuvé, disons, cette démarche de redéfinition des rapports. C'est-à-dire en donnant beaucoup plus de souveraineté, beaucoup plus d'autonomie à l'Algérie, ce que voulait faire de Gaulle. Bon, de Gaulle ensuite est allé plus loin, puisqu'on est allé jusqu'à l'indépendance. Mais pour beaucoup, disons, de gens en France, Il y avait cette incompréhension qu'un monde nouveau était en train d'apparaître, que des États étaient en train d'exister, que les rapports de force mondiaux étaient en train de basculer, de changer complètement, et qu'il fallait inventer un passage original.
Au moment de toutes ces indépendances africaines, notamment.
Notamment, absolument. Et que de Gaulle avait cette volonté, cette passion, cette détermination. C'est un homme extrêmement déterminé. Ce que j'ai découvert aussi en travaillant sur lui, c'est que c'était un politique jusqu'au bout des ongles. Vous savez, on a la vision d'un de Gaulle, disons un grand stratège hors du temps, une sorte d'intellectuel écrivant en politique. Mais en fait, pas du tout. De Gaulle avait ses fidèles, il les rassemblait, il leur montrait la voie, il leur dictait presque la conduite, il montait des coups politiques. C'était un homme politique redoutable, de Gaulle. Hein.
Vous qui aviez fait 68 en tant que trotskiste, c'était assez savoureux de vous entendre à ce point apprécier ce talent.
Oui, parce qu'évidemment, en 68, on ne connaissait pas de Gaulle. Hein, c'était un personnage qui nous paraît... Et d'ailleurs, c'était vrai, parce qu'il avait, là, cette fois-ci, plus compris la société de 68, qui était en majorité jeune, fondamentalement. Et donc là, c'était effectivement fini. Mais là, vous avez raison de signaler que ce qui va nous intéresser dans le courant des années 70, c'était pas de Gaulle, c'était Mitterrand, qui avait pris le contrôle du Parti Socialiste à Épinay en 71 et qui apparaissait comme l'homme de la gauche rassembleur, une gauche radicale, une gauche qui allait changer la vie et changer le monde. Enfin, toutes ces expressions sont bien connues. Et donc, dans le couple de Gaulle-Mitterrand, celui qui avait l'avantage à l'époque, dans nos esprits en tout cas, c'était Mitterrand. C'était pas de Gaulle. Mais les choses ont bien changé. Et quand on voit aujourd'hui, quand on réapprécie aujourd'hui les choses et quand on connaît le parcours de François Mitterrand, notamment sur la question, non pas simplement de Vichy, mais aussi de l'Algérie, eh ben on s'aperçoit effectivement qu'il avait été beaucoup plus longtemps que cela attaché à l'Algérie française, François Mitterrand, que le général de Gaulle, qui avait compris les choses beaucoup plus tôt que lui. Beaucoup plus tôt que lui, comme d'ailleurs le général de Gaulle avait compris les choses beaucoup plus tôt en 1940. Par rapport à François Mitterrand, qui était, comme on le sait maintenant, proche du régime de Pétain dans les années 41-42. Donc, il y avait cette sorte d'anticipation visionnaire chez de Gaulle qu'on va lui découvrir beaucoup plus que chez Mitterrand. Et c'est ça aussi qui est un coup terrible aussi pour une partie de ma génération.
De gauche.
Bien sûr, pour la gauche en général, parce que la gauche s'était beaucoup investie effectivement sur François Mitterrand, jusqu'à aujourd'hui encore. Et on s'aperçoit que dans cet investissement affectif sur deux questions clés, c'est-à-dire Vichy et l'Algérie, eh bien, c'était pas lui qui avait la position, disons, qui permettait de sortir de ce qui pouvait être des bourbiers.
Vous avez beaucoup insisté, Benjamin Stora, sur votre engagement politique à l'international. Vous avez beaucoup insisté sur la conjugaison des cultures qui font votre identité. Vous avez beaucoup insisté sur votre volonté d'embrasser mondialement l'histoire et des deux côtés et de dépasser les conflits de mémoire. C'est tout le sens de votre œuvre livresque qui s'adresse donc au grand public qui écoute cette émission. J'avais 1000 autres questions à vous poser. Vous avez accepté de rencontrer Macron, par exemple, le président Macron. Vous avez accepté d'être consulté sur la question de Maurice Audin. On n'a pas le temps de développer, mais c'est un pas énorme du point de vue de la France.
Un mot
sur cette question.
Un mot, vous savez, l'essentiel pour moi, c'était la reconnaissance par la France de ce crime qui avait été commis, c'est tout.
Donc Maurice Audin disparu en 57.
Maurice Audin, mathématicien enlevé et assassiné. Et c'était un très très vieux combat qui avait été mené notamment, bien sûr, par la gauche française et qui n'avait jamais abouti. Eh bien, c'était le moment de le faire, et c'est pour ça que j'ai appuyé cette démarche.
Et avant de nous quitter, Benjamin Stora, je voudrais vous proposer cette réflexion d'un grand écrivain constantinois. Votre ville, c'est Kateb Yassine. Il s'exprimait en 71 au micro de Charles Haroche.
Pour ce qui est des traditions orales, enfin, ce sont évidemment les plus importantes. C'est la mémoire collective du peuple, quoi, qui a gardé vraiment un très riche contenu. Seulement, ce contenu se perd, et puis en plus, il est menacé d'être déformé, il l'est tous les jours, dans la mesure où on ne l'a pas maîtrisé, où on ne s'y intéresse pas assez. Je crois qu'il y a eu une écriture autrefois, nos ancêtres, ces ancêtres qu'on appelle berbères, que les Romains appelaient barbares, c'est-à-dire les Algériens, de toujours, ceux-là, il est possible qu'ils aient écrit même avec leurs pieds sur le sable. Le phénomène de l'alphabet, c'est la vie, quoi. C'est la vie qui détermine la culture, la langue, c'est la vie du peuple. Or, notre peuple, il a toujours été, en quelque sorte, dépossédé de cette culture. Et cette culture se déforme. Il y a actuellement une querelle, une fausse querelle que cherchent les arabisants purs, c'est-à-dire ces messieurs qui veulent s'en tenir au Coran et à l'ancienne littérature, à la forme, une espèce de latin. Bon, ils ne veulent pas admettre que le vrai arabe, c'est l'arabe populaire, c'est celui que parle le marchand de légumes. Et le marchand de légumes a plus de génie que le mandarin. Parce que le génie est dans la vie, il n'est pas ailleurs.
L'irrévérence de Kateb Yassine, grand écrivain constantinois, qui parle de ce que peut être la culture des Algériens et de leur accès à leur histoire et à leur mémoire. C'est toute l'œuvre de votre vie aussi, Benjamin Storin.
Tout à fait, tout à fait. Moi, je me sens très proche de Kateb Yassine, bien sûr, qui a été un homme qui a essayé de définir les métamorphoses de la culture algérienne et sa singularité et ses unités en même temps. C'est-à-dire de cheminer sans arrêt, pour essayer de gratter le sol et, comme il le dit, d'aller à la recherche de ses ancêtres, de ses couches d'ancêtres successifs, quoi. Et de ne pas rester enfermé sur une seule histoire, une seule langue, une seule culture. Et c'est un personnage absolument extraordinaire, Kateb Yassine, bien entendu. Par ses pièces de théâtre, bien sûr par Nejma, par ses engagements. Il est extraordinaire aussi par sa lucidité politique par rapport à un autre homme comme Camus, par exemple, puisque, qu'on le sait, dans la polémique entre Kateb et Camus, il y a eu cette différenciation sur la question du passage à la nation, en fait, fondamentalement. Bon, que Kateb voulait, parce qu'à travers cela, ça lui permettait de revenir à la multiplicité, en fait. Ça lui permettait de revenir à l'aspect pluriel culturel. Et il n'a jamais lâché toute sa vie sur ces questions-là.
Vous ne lâcherez pas non plus, vous avez fait le musée de l'immigration.
j'espère, oui, effectivement, puisque j'ai été président de ce musée pendant 6 ans, précisément parce que les histoires d'immigrés, ce sont des histoires de France. Ce sont des histoires qui sont métissées, mêlées, mélangées, mais qui existent aussi en tant que telles, qu'il faut reconnaître, qu'il faut savoir reconnaître en tant que telles. Et donc, oui, c'est le parcours de Kateb Yassine, c'est un parcours exemplaire à ce niveau-là, bien sûr. Surtout qu'il est de Constantine, bien sûr.
Et vous avez choisi d'écrire votre histoire d'enfance juive à Constantine en titrant « Les clés retrouvées ». Et pourquoi vous avez choisi ce titre, justement, Les clés retrouvées?
Parce que je les avais retrouvées à cette époque-là, en 2000, lorsque ma mère est décédée dans le tiroir, disons, de sa table de nuit, où elle avait déposé tous ses médicaments, et elle en avait beaucoup. Vous savez, quand on vieillit, on a beaucoup de médicaments. Eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de médicaments, et au milieu de tous ces médicaments, il y avait des clés. Et avant de mourir, j'en avais discuté avec elle, elle m'avait dit, mais ça, c'est les clés de Constantine. Et ça m'avait beaucoup touché, évidemment, quoi. Et alors après, que sont devenues ces clés dans le déménagement, dans la vie, je sais pas. Ce sont des clés qui sont toujours à retrouver, dans le fond.
En tout cas, un livre à lire. Merci Benjamin Stora de nous avoir accueillis dans votre cuisine. Je rappelle votre anthologie pour lire ou relire 6 de vos ouvrages. Ça s'appelle Une mémoire algérienne. C'est dans la collection Bouquins et c'est aux éditions Robert Laffont. Benjamin Stora, une mémoire algérienne. C'était le dernier épisode de notre série, Le bal des indépendances, signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Jeannin, Richard Rifono, avec les archives de l'INA et de RFI.